Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'histoire que nous allons vous raconter cet après-midi dans la Tête au Carré, c'est l'histoire de la forêt tropicale. C'est aussi l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie aux arbres. Et c'est à partir d'aujourd'hui l'histoire d'un film qui sort sur les écrans, tourné au Gabon et au Pérou. Il était une forêt, le nouveau long métrage du réalisateur Luc Jacquet nous plonge dans l'immensité végétale des colosses de bois. Une immersion époustouflante que l'on contemple depuis le puissant réseau racinaire jusqu'au sommet vertigineux de la canopée. Mes invités cet après-midi pour en parler, le botaniste et biologiste Francis Allais et le réalisateur Luc Jacquet. Bonjour,
bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Luc Jacquet dans le sillage de la Marche de l'Empereur. Donc c'est un nouveau défi cinématographique que vous nous proposez puisque vous êtes donc lancé dans ce film où les héros sont immobiles et c'est un pari réussi qui fait découvrir le temps long du végétal dans un contexte global. On va en parler où chaque année des millions d'hectares de forêts primaires sont déboisés. Francis Allais, vous êtes l'unique bipède parfois perché dans ce milieu dont vous êtes le spécialiste. Depuis de très nombreuses années, on vous voit donc dans ce film dont vous êtes à l'origine. On va donc se retrouver dans quelques minutes pour en parler, raconter ce tournage en forme d'expédition et puis voir également ce qui se cache derrière cette gigantesque forêt tropicale. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions qui arrivent déjà sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr, et l'attaque est fille avec le compte Twitter de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Qu'y aura-t-il au menu de notre hashtag l'attaque tout à l'heure?
Tout à l'heure, on vous explique les effets psychologiques du like sur les réseaux sociaux. Vous apprendrez la danse quantique des photons jumeaux et vous écouterez des chercheurs de l'INRIA. Ils nous parleront de captation du mouvement en trois dimensions, une innovation française.
Voilà pour le sommaire de cette nouvelle Tête au Carré réalisée par Violaine Ballet qui a été préparée par Chantal de Montagnier, Anne-Cécile Perrin et Antoine Bonvoisin.
La Tête au Carré jusqu'à 15h sur France Inter.
Où ça y m'en bobby, ça y m'en paye. Où y'a l'aïe qu'on a fait nommé. Où ça y m'en crasse, ça y m'en wood streets. Où y'a l'aïe qu'on a fait nommé. An easy come, an easy go. I'm sure I told you so. Well, I just want you for your door. But I'm sure I told you so. Well, you're dead and Joe. It's been eating away your life. You feel it when it's a high. But trouble. Spend your evening searching for another life. And yeah, I think you're growing your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone, man, just leave us alone. Oh no, I should've kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone.
King Cruel, Easy Easy sur France Inter.
Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques. Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans. On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages. Mais dans leur course effrénée vers la lumière, ils peuvent devenir des guerriers féroces, capables de faire chuter les plus grands. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié.
Et aujourd'hui sort sur les écrans Il était une forêt, nouveau film donc de Luc Jacquet sur une idée originale du biologiste Francis Allais pour un grand voyage au cœur de la forêt tropicale. Ils sont nos invités cet après-midi. Vous nous rejoignez bien sûr avec toutes vos questions sur les arbres et la forêt tropicale. Franceinter.fr, l'attaque FI également avec le compte Twitter de l'émission. Luc Jacquet, Francis Allais, comment un jour est née l'idée assez gonflée quand même de faire un film avec pour actrice principale la forêt? Racontez-nous un petit peu la genèse de cette histoire, Luc Jacquet.
Bah là, on échange des regards. Qui c'est qui commence.
Voilà,
qui commence.
Alors, c'est pour ça que je le dis.
Qui de la poule et l'œuf. Je crois qu'il y avait une grande envie de Francis Allais de faire un film sur la forêt. Moi, j'ai rencontré Francis un peu par hasard, à un moment où j'avais envie de m'investir davantage sur ces grandes questions de la conservation de la nature. Je cherchais aussi un sujet pour faire mon troisième film. J'avais très envie de m'investir dans quelque chose que je n'avais pas encore exploré. Et Francis me dit, écoute, ça fait 20 ans que je voudrais faire un film sur les forêts tropicales. Je ne vous cache pas qu'au début, j'étais un peu réticent. Les forêts, c'était quelque chose qui ne me parlait pas spontanément au cinéma. Et je me suis embarqué dans cette aventure et j'ai vraiment découvert un monde que j'ignorais complètement et que j'ai eu envie de partager.
Ouais. Est-ce qu'il y avait urgence, Francis Allais, à réaliser un tel document? Parce que c'est aussi, au-delà du film, c'est un vrai document sur la forêt.
Mathieu, pendant mon existence professionnelle, je les ai vus disparaître. Donc ça devenait urgent de garder au moins ça, n'est-ce pas?
Ça fait longtemps que vous alertez sur la disparition.
Ça fait 25 ans, oui, bah, ça a vraiment commencé à être évident, indiscutable, il y a 25 ans.
Ouais. Comment ça a démarré d'ailleurs, cette histoire de disparition de la forêt
Juste après la guerre, la reconstruction, et puis le fait que le matériel militaire était mis tout d'un coup à la disposition des exploitants forestiers. Ouais. C'est allé très vite à partir des années 50.
Et ça va crescendo aujourd'hui?
Ça va crescendo.
Ouais. Alors j'ai lu quelque part que vous pensez que dans 10 ans, dans les tropiques justement, la forêt primaire aura totalement disparu. J'ai bien lu ou pas?
Vous avez parfaitement bien
dans
lu.
Dans 10 ans seulement?
Moins.
C'est effrayant comme chiffre.
Ça, c'est un chiffre que j'ai donné il y a déjà pas mal d'années.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus rien sur les zones tropicales?
Non, mais attendez, il y aura de la forêt tropicale, mais il n'y aura plus de forêt primaire.
Ouais.
Il y aura des vilaines forêts secondaires qui n'ont ni intérêt biologique, ni intérêt économique.
Ouais. Oh, pas si vilaine que ça, parce que c'est là que vous avez tourné quand même.
Oui, bah, je crois qu'on a été au plus loin de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui pour tourner raisonnablement avec une équipe de tournage de 60 personnes. Je crois qu'on a eu la chance d'aller encore aujourd'hui dans de très très belles forêts, puisqu'on était au Bail de Langoué, par exemple, où
au Gabon.
Il y a une des plus grandes populations d'éléphants de forêt, où on est au milieu des gorilles. On était dans le parc national du Manu, au Pérou, où vous avez encore des populations autochtones qui n'ont jamais été contactées, qui ont fait savoir qu'elles voulaient surtout qu'on leur fiche la paix. Donc, une forêt qui est malgré tout extrêmement, extrêmement belle, extrêmement sauvage. C'est vrai qu'il a fallu qu'on cherche beaucoup pour trouver ces sites de forêt qui ont encore toute leur faune, toute leur grande belle végétation.
Oui.
Ça devient rare, malheureusement.
Parce qu'effectivement, il s'agit bien de la forêt primaire, l'histoire du film.
Tout à fait.
Et le tournage lui a été fait donc en forêt secondaire.
C'est l'évolution depuis un sol nu jusqu'à la forêt primaire.
Ouais. Donc c'était impossible de tourner dans cette forêt primaire, Francis Allais? C'est vraiment un endroit impénétrable, on n'arrive pas à aller avec une équipe de 60 personnes.
Une forêt primaire, vous pouvez y courir ou faire du vélo. C'est
alors
à ça qu'on la reconnaît.
Ouais. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu installer vos caméras?
Mais tout simplement parce qu'elle était beaucoup trop loin pour nous.
Trop loin, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'une toute petite équipe très mobile aurait pu remonter une rivière pendant des jours et partir à pied pendant des jours. Et on aurait pu trouver la forêt primaire de plaine. Comme dit Luc, on a tourné dans des magnifiques forêts, mais de mon point de vue, il leur manquait un siècle.
Ouais. Qu'est-ce qui les distingue alors, ces forêts primaires des forêts secondaires?
Si vous pouvez y courir, et c'est que c'est primaire. Si vous êtes obligé de tailler la route à la machette mètre après mètre, c'est que c'est secondaire.
Ouais.
Les forêts où nous étions, il n'y avait pas besoin de tailler la route à la machette. Mmh. Mais enfin, le sol n'était pas nu. Voilà.
Luc Jacquet.
Non, c'est vrai que c'est très impressionnant, ces milieux. Moi, j'ai des souvenirs de survol de forêt. C'est vrai que Francis m'a aiguisé le regard comme ça. Je me souviens qu'il m'a dit, quand tu vois les troncs sur la canopée, c'est que la forêt a été touchée. Et malheureusement, on a fait des survols qui duraient plus d'une heure et demie, hein, pour aller vraiment très loin. Et je me souviens de ces survols de forêt, en tout cas primaires, où vous avez l'impression d'une diversité. Tous les arbres se touchent les uns avec les autres. Ouais. C'est vraiment incroyable.
C'est d'ailleurs le dernier plan du film. Hein. On a vraiment cette vision absolument incroyable d'une forêt sans fin. Alors c'est un effet aussi du cinéma, parce que précisément il y a des menaces, hein, qui pèsent sur cette forêt, mais il y a encore, comme au Gabon justement, des lieux. Le Gabon, c'est un pays de forêt principalement.
Absolument, bah, c'est un pays qui a su conserver sa forêt, c'est un pays des forêts qui sont difficiles d'accès, c'est finalement ce qui leur a rendu service aussi d'une certaine manière, mais il y a une vraie volonté politique. C'est compliqué, parce que c'est compliqué aujourd'hui dans le sens où ces forêts protégées représentent un capital considérable. Je prends juste l'exemple de l'ivoire. Aujourd'hui, les quelques populations d'éléphants de forêt qui subsistent sont évidemment extrêmement convoitées par tous les braconniers, puisque l'ivoire a pris une valeur extraordinaire, et moins il y en a, plus il y a de la valeur. Mmh. Et je pense que c'est vrai pour l'ivoire, mais c'est vrai aussi pour les arbres. On est vraiment dans un phénomène d'accélération absolument vertigineux. Parce que plus vous protégez, plus vous allez être convoité, puisque plus votre capital finalement a de la valeur. Et c'est quelque chose d'effectivement très inquiétant, puisqu'on se demande, mais comment va-t-on faire? Il faut mettre une armée pratiquement maintenant autour des forêts pour arriver à les protéger.
Est-ce que l'État gabonais protège sa forêt, Francis Allais?
Admirable. L'État gabonais, là, je dois dire que je suis très favorablement impressionné. Les réserves et les parcs nationaux sont vraiment des institutions solides, et on a des exemples de répression très vigoureuse sur des chantiers illégaux et des choses comme ça. Non, pour l'instant, au Gabon,
parce
ça se passe très bien.
Parce que sur les routes du Gabon, on voit passer beaucoup de camions aussi.
Ah non, mais attendez,
il y a une exploitation.
Tout n'est pas en parc national, bien sûr. Il y a des quantités de
parce que c'est une richesse aussi, évidemment.
Mais bien sûr,
il y a des quantités phénoménales de bois. Luc Jacquet, comment on s'y prend pour faire un film sur une forêt? Alors, comment on prend le sujet? Dans quel sens? Parce que là, effectivement, vos acteurs, il faut...
Vous faites des gestes avec la main, Mathieu, mais effectivement, on sent qu'on la manipule à un moment, cette forêt, avant de... Mais moi, j'ai beaucoup écouté Francis, j'ai beaucoup écouté ses collègues scientifiques, effectivement, pour trouver un axe. Pour moi, il était essentiel de raconter une histoire. Pour moi, plus qu'un documentaire, c'est un film que j'ai voulu raconter, c'est une histoire, c'est embarquer les gens là où ils n'avaient jamais été. Donc, il a fallu finalement faire la synthèse de tout ça. Qu'est-ce qui est important là-dedans? Qu'est-ce qui est facilement discernable? Ça a été aussi beaucoup de travail sur le terrain. Moi, je me souviens, la première fois que je suis parti en Guyane, Francis me parlait de la forêt primaire, et moi, je ne la voyais pas, parce que la caméra a beaucoup de mal à voir la forêt. Donc, il a fallu trouver des trucs, c'est de la mise en scène, c'est du travail de réalisateur. Ouais. C'était à la fois un défi incroyable, et moi, j'ai un plaisir fou à avoir fait ce film.
Avec Francis Allais, c'est le seul personnage, hein, je le disais tout à l'heure, humain, qu'on voit dans le film, quand même.
Oui, parce que je pense que les arbres ont encore aujourd'hui besoin d'interprètes, de médiateurs. Et Francis est un formidable interprète des arbres. C'est lui qui fait le pont, finalement, entre ce monde qui est tellement autre qu'on n'a parfois pas les mots, pas les concepts pour les décrire. Et Francis a fait en permanence ce chemin entre les arbres et moi, d'abord, et puis avec le grand public, ensuite. Ça a vraiment été un travail d'interprétation, quoi, vraiment, d'interprétariat même.
Alors, on voit l'interprète, on voit le botaniste, et on voit l'artiste aussi. On voit beaucoup dessiner, auprès de ces arbres.
Vous savez...
Ça fait partie de votre travail de chercheur et de scientifique.
On ne peut pas être botaniste sans dessiner. Sinon, il faut embaucher un dessinateur, si on ne peut pas le faire soi-même.
Ouais. Encore aujourd'hui, c'est le cas?
Bien sûr.
Tous les botanistes ont un crayon à la main?
Bien sûr, bien sûr. Pas un seul ne vous dira que la photo suffit.
Alors c'est ça, j'allais vous dire, mais avec une photo, c'est formidable.
On me le dit souvent.
On peut avoir des détails très précis.
Non, oui, mais ce n'est pas les bons.
Ouais. Qu'est-ce que vous dessinez alors quand vous avez un arbre à proximité?
Écoutez, moi, c'est un dialogue qui dure un certain temps. Il me faut une bonne heure pour faire un dessin d'une plante. Et tant que je n'ai pas dessiné la plante, je ne peux pas prétendre la connaître. Une photo ne remplacera jamais le dessin.
Ouais. Donc vous avez des milliers de dessins?
J'ai des armoires entières de dessins.
C'est ça, Et vous regardez des dessins que vous avez faits il y a très longtemps?
Non, je les utilise dans les publications scientifiques et dans mes bouquins, bien sûr.
Une question de Gilles. Est-ce qu'il y a, comme chez les animaux, une ou plusieurs espèces d'arbres en voie de disparition dans un avenir proche? Première question.
Alors, il y a déjà des espèces d'arbres qui ont disparu. On les connaît. Bon. Mais la situation est beaucoup moins grave que pour les animaux. Il y a des espèces qui diminuent, mais il n'y a pas de quantité d'espèces sur le point de disparaître, comme dans le domaine animal.
Ouais.
Et Gilles, il peut se rassurer un petit peu.
Bon, et est-ce qu'on découvre de nouvelles espèces régulièrement?
Ah, bien entendu.
Ouais, ça vous arrive aussi?
Oui, bien sûr. Ouais. Mais attendez, nous, on travaille parfois dans des coins où il y a 20% de plantes qui n'ont pas de nom.
Ouais. Donc il y a un travail phénoménal d'inventaire à faire.
Mais bien sûr, et on est animé d'un sentiment d'urgence, puisqu'en même temps, notre objet de travail, il disparaît sous nos yeux.
Ouais, Luc Jacquet.
Mais moi je l'ai pas perçu, parce que c'est vrai que la forêt, c'est quelque chose de très complexe à voir. Moi, je pense que c'est la première fois où j'étais à ce point désorienté dans un milieu qui, je ne connaissais pas les forêts tropicales avant de m'aventurer dans ce film. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à discerner les choses. Il faut que l'œil, finalement, travaille, comprenne comment ça fonctionne. Ouais. Moi, je repense toujours aux Machigengas, là, avec qui on était, les peuples qui vivaient au Pérou. Mais ils se marraient en nous voyant, quoi. On était des martiens pour eux, parce que c'est vraiment un monde qui est complexe. Et de là à discerner que cette espèce est une autre espèce. Moi, j'écoutais Francis très sagement sur ce point.
C'est vrai que l'expérience, la première expérience de la forêt tropicale, c'est un moment qui est totalement bluffant. Parce qu'on a jamais éprouvé ça. Vous vous souvenez, vous, Francis Allais, la première fois que vous êtes entré dans une forêt tropicale, vous aviez quel âge? C'était où?
C'était en Côte d'Ivoire en 1960.
Vous aviez une vingtaine d'années?
J'avais une vingtaine d'années. J'avais l'âge de Darwin quand il est arrivé
au Brésil. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez éprouvé à ce moment-là? Racontez-nous un peu, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier.
Pour un biologiste, c'est des images inoubliables. Ouais. C'était une belle forêt, j'ai eu beaucoup de chance. À l'époque, il y en avait à proximité même d'Abidjan. Maintenant, c'est plus que des parkings, tout ça. Ouais. Oui, des images inoubliables. J'ai encore des quantités de documents qui datent de cette époque-là. Ouais. Je suis très content de les avoir pris.
Alors, c'est des images, mais ce sont des odeurs, ce sont des sons aussi, la forêt.
Oui.
C'est toutes ces choses auxquelles on ne pense pas forcément spontanément. Mais c'est extrêmement vivant, une forêt.
Bah, c'est ce qui
de jour comme de nuit, ça n'arrête jamais,
en fait. C'est l'endroit le plus vivant du monde, surtout la canopée.
Oui. Ça, c'est les sommets. Ça, c'est
vraiment le sommet de la biodiversité.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors de très vivant au sommet des arbres?
Il ne faut pas y aller si vous n'aimez pas la vie. Ce n'est pas votre cas. Mais c'est vrai que c'est extraordinairement vivant le jour et surtout la nuit.
Ouais.
C'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup.
Mais qu'est-ce qui s'y passe, Francis Allais?
Vous êtes entouré de lucioles, vous avez les bruits de toute la faune, vous avez les odeurs des fleurs qui sont exacerbées. Enfin, c'est des nuits totalement inoubliables. Ça vaut le coup, vous savez, de passer une nuit là-haut.
Mais sûrement. Il faut juste avoir les moyens de pouvoir grimper.
Mais maintenant, on les a.
À 70 mètres de hauteur, comment on fait alors quand on est...
Mais maintenant, l'accès à la canopée, c'est plus un problème technique, c'est résolu.
Avec quoi alors?
Mais on a toute une gamme d'appareils. Non, on a des...
Donc c'est très simple.
Oui, effectivement.
Ouais. Luc Jacquet, c'est la première scène d'ailleurs du film aussi. On voit Francis Allais au sommet d'un arbre.
Oui, parce que pour moi, la première image que j'ai eue de Francis Allais, c'était l'homme des canopées, c'était l'homme du radeau des cimes. Mais pour moi, il y avait aussi ce plaisir d'être en haut. C'est vrai que si moi j'avais à raconter ce que j'ai ressenti de plus fort en arrivant dans ces forêts, j'avais un sac à dos de préjugés. Tout était là, les maladies, les trucs. Et je suis arrivé là, mais c'était juste merveilleux. Une sensation de bien-être, sensation de respirer l'air le plus pur du monde. Et vous débarquez sur la canopée. Moi, je me souviens très tôt, on était en Guyane, avoir vu un singe araignée, comme ça, un singe très anthropomorphe, se balader, marcher sur la canopée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais être lui, quoi.
Ouais.
Parce que c'était encore la silhouette humaine. C'est-à-dire que... Et je me suis dit, mais quelle liberté absolue. Je crois qu'il y a un vieil atavisme en nous qui nous pousse à aller voir ça, et on le redécouvre, puisque nous, la canopée, c'est quelque chose de très éloigné. Mais c'est une sensation inoubliable. Voilà, j'ai cette image qui reste en moi. Je crois que j'oublierai jamais. C'est plus qu'une image, c'est un symbole, c'est quelque chose de très fort, quoi.
Ouais. Est-ce que la forêt peut faire peur aussi, quand on n'a pas du tout l'habitude d'entrer dans ce milieu qui peut être hostile aussi, quand même, hein. Il est très vivant, on l'a dit. Il est dense,
on peut s'y perdre. On ne peut pas dire hostile. Vous confondez vivant et hostile.
Oui, mais enfin, ça dépend par quelle bête c'est visité aussi.
Allons-y ensemble, Mathieu.
Ah, mais volontiers.
Ah, mais quand vous voulez.
J'aimerais beaucoup,
Moi, j'ai vraiment le sentiment d'être plongé dans un foisonnement vital dont je n'étais qu'un atome. Et le sentiment de pouvoir potentiellement faire partie du menu de certains des habitants, qu'ils soient petits ou gros.
Ah oui, quand même.
Après, bah oui, mais il faut connaître les règles du jeu. Quand vous allez en Antarctique, vous sortez pas en short ni en tongs. Vous savez que quand vous allez dans la forêt, vous avez besoin d'être guidé. En tout cas, on a besoin d'être guidé. On se perd à une vitesse folle parce qu'on n'a pas les clés. Oui. On n'a pas les clés de ça. Mais ça, c'est vrai. Enfin, on a l'habitude un peu de ça, dans le sens où on va tourner dans tous les sites, tous les endroits du monde. Vous avez besoin d'un médiateur, quelqu'un qui connaît les règles du jeu. C'est vrai que quand vous êtes dans la forêt, il faut vraiment bien les connaître parce que ça peut vite mal se passer. Un exemple. Vous reposez, vous prenez un tronc, vous appuyez dessus, puis ce tronc est gardé par des fourmis. Ouais. Vous êtes très vite au courant qu'il ne faut pas toucher cet arbre.
Ouais. Et vous avez eu de bons guides sur place.
Oui, effectivement. Tant au Pérou qu'au Gabon, on a eu des gens excellents qui connaissaient très bien la forêt et qui en étaient vraiment les gardiens.
Et c'est absolument essentiel, évidemment.
Absolument.
Quand on est dans ce type de milieu. Daniel demande si la forêt guyanaise est primaire. Francis Allais.
Il y a des parties primaires dans le sud de la Guyane, beaucoup moins dans le nord. Mm-hmm. Mais oui, encore une belle réserve. Le plateau des Guyanes, dans l'ensemble, c'est une des dernières réserves sud-américaines de forêt primaire.
Est-ce qu'on croise encore des peuples de la forêt aujourd'hui ?
Bien sûr.
Il y a encore des gens qui vivent
bien sûr.
Dans ces milieux ?
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la déforestation, c'est aussi un génocide. Parce que ces gens-là sont habitués à vivre dans la forêt.
Ils ne s'adaptent pas à d'autres milieux.
Non, en tout cas pas aux bidonvilles autour des cités. Donc détruire la forêt, c'est réellement les détruire.
Ouais, c'était la question de Georges sur Twitter. Existe-t-il réellement sur Terre des endroits vierges de tout contact humain aujourd'hui ?
Oui, je dirais ouais. Oui, je peux lui en montrer, mais il va falloir s'attendre à faire un grand voyage.
Ouais. Il faut aller où alors dans ces cas-là ?
Si vraiment il faudrait aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
C'est encore un des derniers sanctuaires.
Oui, oui. Oh non, on peut aller en trouver plus près que ça. Mais de toute façon, ça sera des endroits difficiles d'accès.
Allez, on vous retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour des arbres et ce film « Il était une forêt » qui sort donc depuis aujourd'hui sur les écrans. Et Martina Topley-Bird avec I Be the Prophet à l'instant sur France Inter dans la tête au carré. Nous parlons avec Francis Allais et Luc Jacquet de ce film qui est donc sorti ce matin sur les écrans. Il était une forêt. On va écouter quelques séquences du tournage, justement, Luc Jacquet.
Action, Ben. On laisse tourner avec le vent et si la lumière se tient, on remonte. C'est très très beau, hein, c'est d'une fluidité. C'est chouette, Ben, passer près des feuilles comme ça, ça marche du coup. C'est ce genre de plan qu'on est venu chercher. Hein. Oh. Ok, coupé, merci.
C'est bien avec le vent à la fin.
Ouais, ouais. C'est très beau. Ouais.
Oui. Silence, s'il vous plaît.
Premier plan.
Putain, il y a de la fourmi là, effectivement. Rico,
ouais.
Gauche cadre, il va me manquer quelque chose. Dans la profondeur.
Ok. Cool. Ouais.
Tiene veneno.
Tiene, eso fuerte.
Tiene saco.
Tiene, tiene.
Merci à tous. Coupé.
Voilà, ambiance de tournage, dans cette ambiance de forêt, on entend cette sonorité. Luc Jacquet, quelles sont les principales difficultés justement lorsqu'on tourne dans ce type de milieu ?
On est à la fois sur un tournage de cinéma, c'est-à-dire avec toute la logistique, tout ce quoi demande un tournage de très haute spécificité avec du matériel, etc., etc. Mais on est aussi en expédition et il faut arriver à concilier les deux puisque on n'est pas des aventuriers, on est des cinéastes, on est là pour faire des images, on est là pour ramener un film. Donc c'était effectivement extrêmement complexe. On était aussi baigné dans la forêt, c'est-à-dire que il est rare qu'une équipe s'immerge à ce point-là dans le milieu dans lequel elle tourne. Et nous, je prends l'exemple du Pérou, on était au parc national du Manu, on était sur un camp, on y est resté 7 semaines sans ouais. bouger, c'est-à-dire
donc vous avez dormi sur place,
donc on dormait sous place, donc la forêt on la sentait, on l'a appris. Francis était aussi notre médiateur. Moi je me souviens des nuits dans le camp de Pakiza, c'était incroyable, avec des nuits qui étaient jamais les mêmes, avec des concerts nocturnes incroyables. Et c'est sûr que vous levez le matin, vous partez installer une plateforme, c'est 3 jours, 4 jours de boulot pour installer une plateforme, c'est très lourd puisqu'on a beaucoup travaillé sur la canopée. Donc il fallait en permanence intégrer ce cycle, je vais installer, je vais désinstaller. On a parfois le plan d'entrée, on a mis 6 jours à l'installer, on a tourné 2 heures, on a coupé et on est passé au plan suivant. C'est-à-dire que c'est une logistique considérable.
Ouais. Est-ce que ce film montre exactement ce à quoi vous rêviez, Francis Allais ? Ou est-ce que, évidemment, la technique, le cinéma impose certaines contraintes ?
Écoutez, la technique, elle a le mérite de se faire totalement oublier là-dedans. J'ai l'impression d'être arrivé dans un arbre comme un oiseau, on ne sait pas comment. Non, la technique est superbe. Alors, effectivement, c'est le film que je souhaitais.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Et les outils étaient là aussi, hein, évidemment. Il a fallu en trouver de tout à fait spécifiques pour aller au sommet ou dans ce milieu tout à fait particulier.
Oui, c'est évident qu'on a compris très vite qu'on n'avait pas les outils pour filmer la forêt. Moi, je voulais vraiment embarquer les gens dans un voyage merveilleux, dans une forêt qu'ils n'avaient jamais vue. Et il fallait donner toute leur puissance, toute leur majesté aux arbres. Quand vous travaillez face à un arbre qui fait 60, 70 mètres de haut, vous faites un simple mouvement de caméra, vous n'arrivez pas à passer l'émotion. Et moi, je voulais faire un film impressionniste. Vous avez été en forêt, Mathieu, je voulais que les gens sentent ce que c'est qu'être face à un tronc millénaire. Je voulais que les gens puissent se balader sur la canopée. Donc on a inventé des grands travelling sur câble très stabilisés. Ça a été beaucoup de temps, beaucoup de prototypes, ouais. Parce que c'était loin d'être évident, évidemment.
Donc vous avez des caméras particulières, hein,
des caméras numériques assez simples, mais c'est vraiment la machinerie et c'est surtout tout le travail en amont, en se disant qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour raconter cette histoire. Donc le film était entièrement storyboardé. Ça n'a pas été un film saisi au hasard, comme ça, un peu la tête en l'air, en disant qu'est-ce que je veux bien faire là-bas. Ouais. Non, on a beaucoup travaillé le film en amont.
Ouais, mais avec les animaux, on en voit quelques-uns, hein. Ils ne sont pas ultra présents pendant le film, mais quand même, ils ont une présence dans votre long-métrage. On ne peut rien préparer avec les animaux.
Mais si, on peut préparer. On savait qu'à Langwe, par exemple, on avait les éléphants. On sait qu'il y a une relation très forte entre le Moabi, l'arbre central de la forêt d'Afrique, et les éléphants. Il y a une relation intime, hein, qui est vraiment très complexe. On savait qu'il y avait des animaux qui étaient pollinisateurs. On n'avait pas forcément mis le nom parce que Francis m'avait dit, écoute, si tu cherches quelque chose de précis dans la forêt, tu ne le trouveras jamais.
Ouais.
Mais en revanche, si tu tournes d'un mètre, tu vas trouver quelque chose de prodigieux. Donc on avait un guide comme ça. On avait un guide, une sorte de cahier de course, et on avait une équipe animalière dédiée à dire, aujourd'hui je dois traiter de la pollinisation, il faut qu'on trouve un animal pollinisateur. Et je repense toujours à Jérôme Bouvier, le chef opérateur animalier, qui revient un jour en disant, regarde ces images de petits singes qui sont en train de lécher les fleurs de Combretum, cette liane superbe. Et effectivement, il y avait un rapport de volupté qui est tout était dit en une image.
Ouais.
Et on a travaillé comme ça en permanence.
Et il faut être patient. Hein, Francis Allais, c'est une des grandes qualités, j'imagine, quand on vit dans le milieu de la forêt aussi.
Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ces choses-là très vite.
Ouais.
C'est un temps très long. Et puis c'est extrêmement compliqué. Vous savez que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à la surface de cette planète.
Ouais. C'est le temps long des arbres. Hein, parce qu'il faut beaucoup de temps pour former...
C'est un mélange de temps long et de temps court.
Ouais.
On est toujours entre deux chaises là-dedans.
Ouais. Vous avez estimé d'ailleurs le temps nécessaire pour une forêt primaire comme celle-là. Il faut des
depuis
centaines
un sol
d'années.
Nu, il faut 7 siècles.
7 siècles.
Et une fois qu'elle est formée, elle n'a pas de raison de s'arrêter, n'est-ce pas ?
Ouais. Donc 7 siècles en milieu tropical.
En milieu tropical,
il faut un peu plus de
nettement
temps.
Nettement plus en Europe.
Ouais.
On pourrait peut-être dire 10 siècles, 1000 ans.
Donc c'est un temps extrêmement précieux. C'est une des raisons aussi pour lesquelles vous aviez envie de faire ce film. Parce qu'il fallait aussi montrer ça. Parce qu'on peut évidemment couper un arbre avec une scie du jour au lendemain. Ça, c'est très facile. Mais il faut vraiment des années et des années de formation. Hein.
Je trouve que ce rapport au temps et des paysans nous ramène à quelque chose de très essentiel et nous rend modeste quelque part. Quand Francis me dit que le houx royal de Tasmanie vit plus de 30 000 ans, je me dis, mais il a, un arbre a pu voir potentiellement toute l'évolution de Sapiens Sapiens. Et là, c'est vertigineux. Je crois que l'arbre nous ramène à une notion qu'on a complètement perdue de vue aujourd'hui, qui est cette notion de temps, cette notion de durée. Effectivement, on sait aujourd'hui que si on coupe la forêt, il va falloir 7 siècles. Mais qu'est-ce que c'est pour nous, ça n'existe pas. Et je crois qu'on n'arrive pas à prendre en considération cette logique-là aujourd'hui, alors qu'il va falloir qu'on la prenne à un moment donné, puisque ça va être une question de survie pour nous.
Ouais. Ludovic Diès, qu'en détruisant les forêts, on ne détruit pas d'une certaine manière l'humanité? Francis Allais,
je suis tout à fait de cet avis, et beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Je voudrais lui rappeler que l'être humain, Homo sapiens, est originaire des canopées équatoriales. Ne serait-ce que ça, ce serait une bonne raison pour les protéger.
Ouais, alors vous disiez donc disparition probable dans moins de 10 ans de ces forêts tout à fait particulières, hein, équatoriales, sur les plateaux. Quelles conséquences justement pour les hommes, cette perte
et cette richesse? Attendez.
Mais au-delà de l'effroi qu'on peut...
On va sans doute pouvoir continuer à vivre, mais dans des conditions qui sont lamentables. Moi, je ne veux pas survivre à ce genre d'époque. C'est une chute dans le domaine de la civilisation. Voilà, c'est ça. Puis moi, j'y suis attaché. Ne serait-ce que ça, je trouve que ça justifie qu'on les protège.
Mais on a totalement perdu le contact avec ces forêts aujourd'hui. L'humain...
Non, il y a pas mal de gens qui en vivent.
Vous trouvez quand même
Sur place.
Oui, sur place, effectivement. Oui. Alors Dominique dit ceci, pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme de tropical alors que de toute évidence, vous parlez des forêts équatoriales?
Il a raison, c'est vrai, mais enfin, ça, c'est pas uniquement l'équateur, c'est 10 degrés au nord et 10 degrés au sud.
Bon, on a une petite marge, Alors, vous évoquiez le Moabi.
C'est l'épaisseur du trait.
Voilà, exactement. Vous évoquiez le Moabi tout à l'heure, que l'on voit dans le film, considéré comme le roi des arbres. C'est vraiment le plus grand de la forêt, Francis Allais.
Si vous me lancez sur le Moabi, vous aurez du mal à m'arrêter.
Ah, mais je vous lance, allons-y. Racontez-nous un peu l'histoire du Moabi.
C'est absolument admirable. Il y a vraiment cet arbre-là et les autres. Il y a, dans le sud-est asiatique, il y a quelques diptérocarpes qui ont cette prestance, ce charisme, comme dit Luc.
Ouais.
Un arbre magnifique. Je constate en montant là-haut que c'est un arbre unitaire, c'est-à-dire qu'il a fait son programme génétique de développement une seule fois.
Ouais.
C'est un arbre qui vit 1000 ans. Et puis, on a eu la grande chance de tomber dessus au moment où il n'avait pas de feuilles et qu'il était couvert de fleurs, des fleurs que très peu de gens avaient vu, même nos guides gabonais ont été très surpris par la fleur du Moabi. Quel dommage qu'on ne puisse pas faire passer l'odeur de cette fleur-là.
Qu'est-ce que ça sent? Quelle est l'odeur exactement? À quoi ça ressemble?
Une odeur... Moi, je ne sais pas comment dire. C'est...
Rien de verveine, rien de fraîcheur, rien de... C'est d'une subtilité incroyable. C'est d'une douceur, d'une fraîcheur. Effectivement, on est démunis pour raconter ça parce que c'est d'une telle finesse que ça nous dépasse. C'est un souvenir. Ça, c'est la mémoire olfactive. Ouais. C'est quelque chose de prodigieux.
Il y a une touche urbaine aussi dedans.
Ah bon ?
Oui, c'est extrêmement curieux.
Une touche urbaine, ça veut dire quoi exactement ?
Un très bel appartement luxueux sur le quai Voltaire.
Ah oui, on voit, très très bien. Est-ce que c'est cet arbre qu'on voit seul ? Parce qu'on a l'impression qu'il est là, il s'impose, il est tout à fait original, avec cette couleur rougeâtre.
Oui.
Oui, c'est ça. C'est l'arbre qui clôt le film, qui est vraiment ce plan incroyable qu'on a fait au drone avec Francis au cœur de la couronne d'un très très grand Moabi. C'est vraiment un arbre à nul autre pareil. Moi, c'est vrai que j'utilise le terme de charisme parce que quand vous le croisez dans la forêt, il vous arrête.
Et puis on voit que lui.
Et on ne voit que lui.
C'est ça qui est étonnant.
Et c'est assez singulier dans le sens où tous les sentiers d'éléphants convergent vers les Moabis. Donc naturellement, le Moabi vous attire à lui puisque des centaines et des centaines de générations sont venues vers ces Moabis pour en manger les fruits. Et donc vous finissez toujours par tomber sur un Moabi. C'est assez perturbant. C'est aussi un arbre sacré chez les Baka, chez les pygmées Baka.
Ouais.
C'est vraiment un arbre extraordinaire.
Alors, il y a aussi ce figuier étrangleur. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, Francis Allais, parce qu'il est tout à fait étonnant. On parlait de rapidité, d'ailleurs, parce qu'il y a le temps long des arbres, mais là...
Ça, c'est plutôt rapide.
C'est rapide, justement.
Alors, les figuiers, c'est un groupe botanique tout à fait étonnant. Celui-là, il germe en haut des arbres. Si vous mettez la graine au sol... Ça ne marchera pas.
Ouais.
En haut des arbres, il a la pleine lumière, donc il germe très bien. Il envoie les racines vers le bas, les racines se soudent, elles ne peuvent plus s'agrandir, et donc l'arbre qui est là-dedans, il meurt étranglé.
Mais ça, c'est terrifiant, non ? C'est-à-dire qu'il en serre totalement l'arbre, oui, il s'installe, oui. Il colonise absolument tout. Et donc, c'est la mort à terme de l'arbre?
Sans aucun doute, oui. Ouais. Et si c'est sur un bâtiment, c'est la mort du bâtiment.
Ouais. Donc, il n'y a aucune synergie entre les deux espèces.
Ah non,
espèces,
pas du tout,
hein.
Non.
C'est vraiment la condamnation de l'arbre.
Je ne parlerai pas d'un parasite, c'est un peu différent. Hein. C'est purement mécanique. Ouais. Mais c'est un phénomène très spectaculaire et qui est caractéristique de toute la bande équatoriale.
Ouais. On a eu la chance d'en filmer un qui avait vidé son hôte. C'est-à-dire que l'arbre avait tellement réussi à l'étrangler qu'il ne restait du tronc de l'autre plus qu'un vide. On avait la forme fantôme de l'arbre. Et c'est très impressionnant parce que vous rentrez là-dedans, c'est face à une taille gigantesque.
Et on voit la puissance, hein, véritablement, de ce figuier. C'est extrêmement impressionnant. Sur les effets spéciaux, parce qu'ils existent aussi dans ce film, Luc Jacquet, à quel moment vous avez pensé qu'ils étaient indispensables? Précisément pour montrer autre chose, puisque là on voit une certaine communication qui s'installe entre les arbres de la forêt, ce qui se passe au sein même du tronc de l'arbre, et ça évidemment on peut le voir qu'avec les effets spéciaux.
Bah, très vite, il s'est imposé l'idée qu'il allait falloir qu'on emmène le spectateur dans le temps de la forêt, c'est-à-dire qu'on quitte nos repères et qu'on aille voir pousser les arbres. Moi, je suis très frappé par la grâce, la beauté d'un bourgeon qui va se développer. Je sais qu'il va se développer. Si je reviens deux jours plus tard, il y aura une fleur, mais j'aurais manqué l'essentiel, c'est-à-dire que j'aurais manqué l'épanouissement. Et c'est la même chose pour les grands arbres. On a une graine qui va devenir un arbre de 700 ans, colossal, et je voulais montrer ça. J'avais envie de me payer le plaisir de voir un arbre pousser devant moi. Je m'en suis pas privé. C'est vrai qu'on a aussi prolongé, avec les effets spéciaux, ce trait du botaniste, hein, ce trait qui permet de comprendre, qui permet de faire passer l'émotion. C'était pour moi quelque chose finalement de très naturel. Le crayon quitte la feuille et finalement gagne la forêt pour nous montrer les arbres dans un temps qui n'est plus nôtre.
Et pour nous montrer la communication entre les arbres. Parce que ça, c'est une réalité, Francis Allais. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une espèce de dialogue permanent entre toutes ces espèces, entre elles.
Entre les arbres, mais aussi entre les arbres et les animaux. Ouais. Et aussi, le plus étonnant, entre les arbres et des éléments inertes du milieu environnant, du milieu physique.
Mais qu'est-ce qui se raconte alors? C'est quoi ces messages envoyés?
Parce que vous c'est l'audio radio qui parle.
Lui, il connaît le langage des arbres.
Il y a des cas où le message, je peux très bien le traduire. Attention les amis, il y a un herbivore ici, c'est le moment de devenir toxique. Ouais. Ça, je peux garantir ce sens-là au message des gazelles koudou.
Ouais. Et la scène avec l'éléphant, il s'agit de ça aussi?
Ah non, l'éléphant...
On voit l'éléphant qui vient ravager, évidemment, son milieu, et à ce moment-là, justement, on nous dit...
Il tombe des fruits, et c'est ça qui les
attire. Que la forêt envoie des signaux.
Le choc du fruit sur le sol, ça se perçoit très très loin. Vous savez, les éléphants, ils marchent sur le bout des doigts, comme ça, c'est le bout des doigts. Extrêmement sensible.
Ouais.
La moindre vibration, et ça vous sait.
Marion, encore un message pour vous. Francis Allais nous dit ceci. Comment est-ce qu'on peut aider à lutter contre la déforestation à notre échelle de simples citoyens et consommateurs? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est vraiment...
Exiger absolument des patrons de supermarchés la traçabilité des bois qu'ils vendent.
Ouais.
Et si c'est du bois qui vient de forêts primaires, eh bien, laissez tomber. Par contre, du bois de plantation, vous rendez, Marion, le plus grand service au pays producteur en l'achetant.
Ouais. Et Belloc, pour terminer, nous envoie ce message. Est-ce qu'il existe des outils juridiques internationaux qui permettent la protection des forêts primaires? Quelles sont leurs efficacités? Est-ce qu'il y a des campagnes pédagogiques également?
La réponse est non.
Il n'y a pas d'outils, là, pour l'instant.
Sinon, on les aurait déjà mis en œuvre depuis longtemps.
Ouais. Mais il y a un gros problème politique autour de la forêt.
Bien sûr.
Les forêts dépendent des États.
Le problème politique, de mon point de vue, c'est que ceux qui ont envie de protéger la forêt sont des gens comme moi, et individualisés et dispersés, on n'a pas de structure. Et en face de nous, on a une espèce de rouleau compresseur de gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, le maximum de fric dans le minimum de temps, et ils sont bardés de juristes.
En tout cas, ce n'est pas le thème du film, hein, Luc Jacquet, parce qu'évidemment, ces questions de déforestation, elles sont abordées, mais très finement au début, et puis ensuite, on part vraiment dans le milieu, c'est ce que vous avez souhaité, hein, également.
Ouais, je pense que c'est un choix très fort qui a été fait, effectivement. Je crois que les questions de déforestation, aujourd'hui, sont parfaitement connues. Il n'y a pas un personnage sur la planète qui peut se dire tout va bien. Donc l'idée pour nous, c'était d'aller chercher le spectateur sur un autre message. Je crois qu'on arrive au bout de la culpabilisation du public, je crois qu'on arrive au bout de l'accusation, je crois qu'il faut trouver d'autres solutions puisque de toute évidence, ça marche pas. Donc comment fait-on pour enrayer ce phénomène? Nous, on a pris le parti de raconter une histoire, d'émerveiller, de faire comprendre, de donner à connaître. Et à partir de là, peut-être que les gens, je me dis, s'ils ont compris, s'ils se sont rendus compte que c'était prodigieux, bah, ils vont plus se comporter de la même manière. C'est une utopie, c'est un pari.
Et c'est à partir d'aujourd'hui sur les écrans, Il était une forêt, et puis également en librairie avec beaucoup d'ouvrages pour les adultes, pour les enfants, il y en a pour tout le monde. C'est aux éditions Actes Sud principalement. Tout ça sort donc avec le film. Merci Francis Allais et Luc Jacquet, et très belle vie donc à ce long métrage qui sort
aujourd'hui.
Merci.
Dans un instant, le hashtag l'attaque. On termine avec le dernier quart d'heure de l'émission, juste après la femme.
Aujourd'hui, Françoise n'a pas bonne mine. Au sol, des Kleenex et mégots de cigarettes. Elle n'a pas eu encore la force de se lever. Pas un email, pas un coup de fil. Elle se raccroche à son t-shirt. Humant avec ardeur les arômes de son bien-aimé. Ce soir, Françoise perd où est la vie. Une poubelle qui déborde de conserves et de surgelés. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Ce soir, Françoise, dans le destin. Faut dire qu'il a tout fait pour les séparer. Tous ces malentendus, ça a pas loupé. Sans vouloir parler des problèmes de fierté. Maintenant, Françoise n'est pas maligne. Un morceau de chocolat en guise de copine.
Ça s'appelle le blues de Françoise et c'est la femme sur France Inter.
Hashtag l'attaque.
Le hashtag l'attaque avec aujourd'hui Hélène Chevalier de France Inter, Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho et Axel Villard. Bonjour.
Bonjour
à tous les trois. On commence avec les infos du jour. Hélène, vous nous parlez d'estimation sur le trafic des données par les smartphones.
Oui, le nombre de données consommées par nos téléphones devrait être multiplié par 10 d'ici à 2019. C'est ce que révèle un rapport de l'équipementier Ericsson qui prévoit en 2019 une consommation mondiale chaque mois de 10 hexaoctets, soit 10 milliards de gigaoctets, un trafic accru par l'émergence de la 4G et qui sera pour moitié utilisé par la vidéo.
Sébastien, du nouveau sur le concept d'intelligence collective.
Oui, des chercheurs de l'Université de Montpellier qui ont montré que dans un groupe humain, la taille du groupe influe sur la complexité des inventions et des savoir-faire transmis. Ils ont mené des expériences qui ont révélé que dans un petit groupe humain, les savoir-faire complexes se perdent plus facilement, alors que dans un plus grand, ils peuvent être observés par de nombreuses autres personnes qui en deviennent également les garantes et constituent un réservoir de savoir-faire. Ils pensent que les progrès techniques auraient pour cette raison pu être favorisés par l'augmentation de la taille des groupes humains, d'abord au néolithique, puis avec les premières civilisations.
Il y a une interview écoutée sur la page des chroniques d'ailleurs.
Tout à fait. Oui.
On a mis ça en ligne ce matin.
Voilà, en anglais, hein, réalisé par les journalistes de Nature. Axel, vous nous présentez une carte des territoires scientifiques et techniques encore inexplorés.
Oui, d'après vous, à l'époque des smartphones et des fusées, que reste-t-il à découvrir ? C'est comme ça qu'est annoncée la carte interactive et collaborative présentée par le CNRS sur son site, dans le cadre des fondamentales qui commencent demain. Pour préparer l'ouverture du forum, vous pouvez vous balader dans le marécage des biomolécules ou vous prélasser sur la plage de sable fin de la psychologie cognitive.
Ah, c'est beau.
Oui, la carte des Territoire inconnu est un bel objet web imaginé par le centre Inmedia et incarné sur les réseaux par la fée cartographe. Elle est très gentille. Allez voir cette belle carte, vous aurez plein d'idées pour des questions à poser demain pendant le direct à 14h consacré aux fondamentales.
Voilà, autour du Big Data d'ailleurs.
Aussi.
Et les fondamentales, ce sera à la Sorbonne à partir de demain également, en partenariat avec France Inter. Et c'est bien sûr le CNRS qui organise ce rendez-vous. La chronique d'Hélène Chevalier. Hélène, vous avez assisté à une expérience de clone virtuel en fin de semaine dans les locaux de l'INRIA de Grenoble.
Eh bien oui, imaginez-vous un jour en train d'assister à un concert où sur scène ce ne sont pas les artistes qui sont présents, mais leurs hologrammes et que ces musiciens, chanteurs, danseurs sont eux physiquement éloignés les uns des autres par des milliers de kilomètres. Eh bien à terme, ce sera certainement possible. Alors, lors de l'expérience de jeudi dernier, des musiciens étaient filmés à Barcelone et Poznan. Leur musique était diffusée à Grenoble, où une danseuse était, elle, aussi filmée, mais en trois dimensions. Et tout ce petit monde se retrouvait sur une scène virtuelle, diffusée, elle, en direct, sur un écran à Vilnius.
D'accord, c'est histoire de se compliquer la vie, quoi, voilà. Un petit peu, quand même.
Alors, avec beaucoup plus de moyens de système de diffusion adapté, hein, la danseuse et les musiciens auraient pu être projetés sous forme d'hologramme à Vilnius. Mais ce n'était pas vraiment le but de l'expérience, hein, car l'INRIA de Grenoble travaille non pas sur la diffusion des clones, mais sur la captation en trois dimensions et en temps réel de personnes, et ce depuis près de 10 ans via la plateforme Grimage. Je suis allée avec l'un des chercheurs, Mathaïs Douze, dans la salle où l'image de la danseuse a été capturée.
Ici, nous sommes dans une salle verte, donc elle est faite pour que le fond que voient toutes les caméras soit le plus vert possible pour pouvoir au mieux extraire les silhouettes dont on se sert.
Il y a donc une, deux, trois.
Il y a 8 caméras fonctionnelles là. Donc,
qui nous entourent
et il y en a une au plafond. Ces caméras permettent de faire une reconstruction relativement fidèle du personnage.
La danseuse n'a aucun capteur sur elle.
La danseuse n'a aucun capteur sur elle. Donc ces 8 caméras voient chacune une silhouette grâce à la différenciation entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Et donc comme on connaît très précisément la position et l'orientation de ces caméras, il suffit de déterminer le cône qui est couvert par cette silhouette pour chaque caméra. L'intersection de ces cônes, ça va être le volume qui est reconstruit.
Voilà, et la danseuse est reconstruite physiquement via ce clone. Alors, pas de capteur comme dans la motion capture, mais beaucoup d'algorithmes. Hein. Il faut 10 ordinateurs pour reconstituer en temps réel l'image saisie en 3 dimensions. Du côté des applications, l'INRIA travaille notamment sur ce qui pourrait être le futur de la vidéoconférence. Bruno Raffin, coordinateur de l'expérience.
De notre côté, on a déjà fait des expérimentations, par exemple avec Bordeaux, avec 2 sites qui faisaient la reconstruction et ce genre de choses.
Il y avait cette fois-ci 2 clones, en fait.
Il y avait 2 clones. Il y avait une personne à Bordeaux qui était clonée, une personne à Grenoble qui était clonée. Ils se retrouvaient dans un espace virtuel partagé commun en temps réel. Ils pouvaient dialoguer, ils peuvent amener des objets réels ou virtuels et partager autour de ça.
Et ils pouvaient se voir comment, en fait
Ils se voyaient à travers un écran ou alors à travers un casque, ça s'appelle un head-mounted display, un casque. On parle beaucoup aujourd'hui des lunettes Google. C'est un petit peu ça. Donc on a l'impression, quand on met le casque, ce qu'on voit en fait, c'est l'espace virtuel. On a vraiment la sensation d'être immergé dans l'espace virtuel. Et on oublie qu'on est en fait dans une pièce toute verte, entourée de caméras.
Sauf que ça ne va pas arriver de sitôt dans le salon, Hélène.
Eh ben, c'est ce que je pensais. Mais Bruno Raffin m'a expliqué le contraire en prenant l'exemple de Kinect, de la Xbox 360, la console de jeu de Microsoft. Kinect, c'est un système qui capte de la 2D5, hein, notamment pour faire de la reconnaissance de mouvement. Un système qui vaut une centaine d'euros aujourd'hui parce que Microsoft s'en est emparé et l'a industrialisé. Si les industriels font de même avec la captation 3D, cela pourrait aller aussi assez vite.
Bon, alors on a tous de la 3D5 avant de passer à la 4D, c'est ça,
oui,
presque.
C'est ça.
Axel, vous nous présentez des thèses aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Oui, Mathieu, est-ce que vous savez à quoi ressemblent 2 photons jumeaux de polarisation opposée liés dans des micro-états quantiques et traversant un amplificateur cristallin ?
Bon, ben pas vraiment, mais je pense que je suis pas le seul autour de cette table. Alors,
oui, c'est facile.
Je sais pas.
Non, non plus.
Non. Je sais juste comment ça se danse. Alors il faut serrer les jambes, onduler du bas du corps et pencher un coup la tête à droite, un coup au milieu, un coup la tête à gauche, etc. Mathieu, si vous voulez bien faire le photon jumeau, hein, c'est-à-dire
mais
qu'il faut que vous fassiez exactement la même chose que moi, mais symétrique inverse. Allez-y. Ah, on y est presque.
C'est bien le photon.
Alors figurez-vous qu'en exécutant ensemble cette danse dite de la génération et de la manipulation des flux quantiques des photons, on pourrait prédire si le chat de Schrödinger dans sa boîte est mort ou vivant.
Donc vous êtes en train de nous dire que cette danse existe vraiment,
oui.
C'est ça ?
Oh. C'est une des productions du projet Danse ta thèse. Explique ta thèse par la danse. C'est pas toujours facile hein, quand on est chercheur de dire sur quoi on travaille, quand on est complètement immergé dans son exercice. Eh bien, faites tomber cette barrière du jargonnage et même de la langue en général, celle de l'hyperspécialisation et de la difficulté à vulgariser, en dansant. Depuis 6 ans, la revue Science s'est associée à un projet vraiment innovant, Dance Your PhD, un concours de danse sur Internet réservé aux doctorants. Les consignes sont toutes simples. Transforme ta thèse en une chorégraphie, filme ta prestation, poste-la sur une plateforme vidéo et envoie le lien à un jury, celui de Dance Your PhD. Tu dois être doctorant et apparaître personnellement dans le clip.
Bon, c'est très amusant. Est-ce qu'on gagne quelque chose, Axel ?
Vous êtes très pragmatique.
Oui,
on gagne un peu de sous, $500, et surtout le droit de bouger son corps, de s'amuser et de rendre la science vraiment ludique, accessible et universelle, même pour des sujets très très complexes. La preuve, le jury est principalement composé de chercheurs et de danseurs, et il juge l'intérêt
l'intérêt scientifique de la thèse, la qualité artistique de la chorégraphie et la capacité à faire passer ses idées à travers la danse. Je vous propose un dernier exemple pour finir. Celui-ci m'a beaucoup fait rire. C'est la thèse de Cédric Kivitan. Il s'est intéressé à la compétition spermatique entre frères chez les poulets. Alors là, il faut imaginer une jeune fille qui fait la poule, copulant artistiquement avec de nombreux jeunes hommes. On devine que ce sont des coqs parce qu'ils ont chacun un peigne rouge fixé avec un élastique au-dessus de la tête et qu'ils battent des ailes frénétiquement. Un premier coq féconde la poule, suivi par son frère qui devra fournir plus de semences pour tenter d'outrepasser la dose de son prédécesseur. Je ne vous dis pas comment c'est chorégraphié ni même comment ça finit puisque la vidéo est en compétition avec 12 autres et qu'il faut voter avant la fin de la semaine prochaine pour élire le gagnant de Danse ta thèse.
On peut voter nous aussi ou pas?
Alors il suffit d'aller sur la page des chroniques et de cliquer sur le lien et d'aller visionner les 12 vidéos.
Sébastien,
voter.
Je suis sûr que vous allez voir de quoi il s'agit, hein, ça vous intéresse.
Oui, mais je trouve ça intéressant, je crois que c'est Einstein qui disait que dans les intuitions scientifiques, il y avait une part de sensation corporelle.
Ben voilà, il faut maintenant changer la façon de faire pour passer son PhD. Donc ça c'est aux États-Unis en ce moment?
C'est partout.
On peut le faire en France aussi?
Tout le monde peut envoyer ses vidéos.
Bon, ben on va sur la page des chroniques de la tête au carré pour voir de quoi il s'agit exactement, ça va vous donner des idées de chorégraphie. Sébastien, vous nous parlez des effets psychologique du fait de liker sur Facebook.
Oui, alors aujourd'hui, on va faire un peu de psychologie de Facebook et de psychologie du like. Alors oui, vous savez, le like, c'est la version moderne de la réputation, de l'amitié en ligne. Quand on like quelqu'un sur Facebook, c'est qu'on l'aime bien. Et celui qui est le plus liké, eh ben, il est, on va dire, il est vraiment cool. Mmh. Alors, premièrement, il y a une industrie du like. Vous avez des vendeurs de like, des vendeurs d'amitié, si vous voulez. Ils ont leur site internet, leur vidéo de présentation et ils sont très sérieux, comme ils le disent ici.
Nous sommes fiers de fournir à nos clients des followers et des fans de la plus haute qualité. Si nous avons été élus numéro un par nos clients, c'est pour une bonne raison. Notre service est non seulement le plus simple, mais aussi le plus rapide du marché. Ne vous laissez pas berner par des offres apparemment moins chères, mais qui vous donnent des fans de moindre qualité par des techniques de spam.
J'aime bien la qualité des fans, c'est important. Alors ça, c'est quand vous voulez faire appel à des pros pour obtenir des likes. Mais sinon, vous pouvez aussi faire ça par vous-même. Il y a des méthodes, des espèces de tutoriels en ligne. Alors, je m'auto-like, je me kiffe. C'est se faire son propre kiff, son propre like. Vous tapez, par exemple, auto-like et Facebook sur Google, vous avez environ 38 millions de résultats. Rien que des trucs pour doper votre nombre de likes. L'humanité passe une partie de son temps à trouver des trucs pour s'auto-congratuler. C'est déjà une leçon de philosophie.
C'est grave, ouais.
Mais il y a une actualité scientifique sur ces likes, et c'est encore autre chose. Je vais vous parler cette fois de ce qui se passe quand vous likez, par exemple, un groupe Facebook de soutien à des œuvres caritatives. C'est ce que les Américains appellent le slacktivisme. C'est un néologisme dérivé de l'activisme, mais sur la toile. On avait eu un exemple avec le mouvement de soutien aux bijoutiers de Nice, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Et les Américains ont commencé à s'interroger sur l'efficacité des soutiens à de grandes causes sur des réseaux sociaux. Et voici donc cette étude qui montre que lorsque nous likons une telle cause, nous donnons en fait moins d'argent réel pour soutenir les gens que lorsque nous ne la likons pas. Et ce, tout particulièrement quand on donne son like devant tout ce beau monde rassemblé sur la toile. En somme, on se donne bonne conscience en cliquant et surtout, on se forge une bonne image de soi-même à travers le regard que portent les autres sur nous. Je suis sûr que La Rochefoucauld se serait régalé de cette époque.
En tout cas, n'hésitez pas à liker la page de La Tête au Carré. Malgré tout, ça nous fait quand même toujours plaisir, hein,
oui,
Axel.
Et je me disais d'ailleurs, on pourrait peut-être évaluer le prix d'un like. C'est-à-dire que si les gens donnent moins quand ils likent, ça veut dire que le like a une certaine
valeur.
Le
manque à gagner du like.
Oui, c'est ça. Combien vaut ton like?
En tout cas, vous avez un sondage qui vous attend également sur la page de La Tête au Carré, puisque je vous rappelle qu'une fois par mois, à partir du 9 décembre, c'est vous qui allez choisir le thème de l'émission. On attend donc vos propositions. Elles arrivent déjà nombreuses en ce moment pour que vous puissiez nous solliciter, proposer des sujets scientifiques que nous allons traiter. Donc, on organisera un premier dossier le 9 décembre. Pour cela, il suffit de vous rendre sur la page Nous Contacter, sur la page de l'émission. Et j'en profite pour remercier, eh bien, tous ceux qui, déjà très nombreux, nous ont rejoints depuis lundi. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos idées. Ce sera votre émission et vous pourrez voter très prochainement pour choisir le sujet. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Passez une bonne fin de semaine. On se retrouve bientôt.